Europe 1. Europe 1,
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Une histoire terriblement d'actualité aujourd'hui. L'histoire d'un jeune adolescent africain qui a choisi d'émigrer en France et qui y est arrivé. L'histoire de Kwame, que je suis très heureux d'accueillir dans ce studio. Bonjour à vous, Kwame.
Bonjour.
Pour écrire cette histoire, je me suis appuyé en confiance sur le livre que vous venez de publier chez Ixo, Revenu des ténèbres. Vous aviez 14 ans quand vous êtes parti de chez vous, en Afrique de l'Ouest, pour des raisons que l'on va découvrir dans un instant. Vous avez mis deux longues années à faire la route, Ghana, Burkina Faso, Niger, Libye, Algérie, Maroc, Espagne. Et vous aviez 16 ans quand vous êtes arrivé à Toulouse, en France. Nous allons donc découvrir votre périple, les raisons terribles qui vous ont poussé à partir, les épreuves que vous avez traversées, la chance aussi que vous avez eue. Voici l'histoire de Kwame que j'ai écrite avec Emmanuel Denise. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Que les choses soient bien claires entre nous. Je n'ai pas l'intention de vous bourrer le crâne. Vous pensez ce que vous voulez de l'immigration et de l'accueil des migrants en France. Si c'est bien, si c'est mal, vous êtes libre. Moi, je vous raconte juste une histoire. Celle de Kwame. Et après, vous en faites ce que vous voulez. D'accord ? Le grand voyage de Kwame commence en 2012 dans un pays que Kwame lui-même ne veut pas nommer. Sa sœur Aïcha est toujours là-bas, ça pourrait lui porter tort. Disons que c'est en Afrique de l'Ouest, Burkina, Mali, Togo, Côte d'Ivoire, Bénin, enfin par là quoi. Au moment où débute cette histoire, Kwame a 14 ans et attention aux idées reçues, il ne vit pas dans un bidonville. Son père est professeur de physique, il gagne bien sa vie. Ils ont une belle maison dans le quartier chic de la capitale, avec trois chambres, une télévision, un salon et une voiture. Il y a 3 ans, Yao, le père de Kwame, s'est un peu impliqué dans la campagne pour la présidentielle. Son candidat a perdu. Et donc depuis, il a arrêté la politique, ça fait 2 ans. Et depuis 2 ans, pas de problème. La vie continue. Jusqu'au 8 décembre 2012, à l'heure du déjeuner. Là, tout bascule. Deux hommes cagoulés entrent dans la maison. Ils bâillonnent les deux enfants, Kwame et Aïcha. Et ils s'adressent au père.
« Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, je te dis. T'as tué des gens de notre parti. C'est faux. J'ai jamais tué personne. Ouais, mais t'as donné l'ordre de tuer. Quand tu faisais de la politique. » C'est pareil, non? Alors maintenant, ça va être ton tour.
Yao répète qu'il n'a jamais donné l'ordre de tuer qui que ce soit.
Jamais! Je vous le jure! Jamais!
Et là, les deux hommes se tournent vers la mère.
Tiens, voilà une arme. Tue ton mari toi-même.
Les enfants sont là, à côté, et ils sont tétanisés.
On va compter jusqu'à 5. Si à 5 t'as pas tué ton mari, on tue tes enfants. 1, 2, 3.
Et là, elle tire. Elle tire sur son mari. Et dans la seconde qui suit, elle est elle-même abattue. Et les deux enfants, Kwame qui a 14 ans et Aïcha 17, les deux enfants ont tout vu. C'est une horreur. Et ça n'est pas fini, figurez-vous. Ensuite, les deux types violent Aïcha, devant son frère, devant Kwame, qui est comme sidéré. Et il s'approche de lui avec une résistance chauffée à blanc et il lui brûle la poitrine.
Tiens! Ça, c'est pour que t'oublies pas.
Comme s'il allait oublier. Et puis ils s'en vont. Et en s'éloignant, l'un d'eux dit à l'autre.
On devrait tuer le garçon aussi, non? Ah non. C'est un enfant. Ouais.
Mais quand il aura grandi, il voudra se venger. Faut le tuer. Sauf que pendant ce temps, Kwame a réussi à s'enfuir. Il a sauté par la fenêtre et ensuite dans un taxi. Et le voilà à l'abri dans un autre quartier, obligé de raconter ce qui lui est arrivé.
Ils ont tué mes parents. Ils ont tué mes parents.
Et là, des passants emmènent Kwame dans un orphelinat où il est pris en charge par une religieuse, sœur Claudine, qui le cache, le nourrit et le soigne pendant 3 mois. Aucune nouvelle de sa sœur. Et puis un jour, au bout de 3 mois, sœur Claudine vient le voir.
Kwame ? Kwame, il faut que tu partes. Faut que tu partes vite. Faut que tu quittes la ville. T'as de la famille ? Dans le village de ton grand-père ? Ouais, enfin. Pas vraiment, pourquoi ? Faut que tu quittes la ville maintenant, au moins pour quelque temps. Je peux pas te dire pourquoi.
Le lendemain, sœur Claudine lui prépare un sac avec des vêtements, des chaussures et un peu de nourriture. Et quand il monte dans le bus, elle lui tend 500 euros.
Écoute-moi bien, Kwame. Cet argent doit te permettre de vivre pendant un certain temps. Prends-le. Et sache qu'à chaque instant, je penserai à toi. Va, mon fils, va.
Et Kwame se retrouve donc dans le bus qui roule vers le village de son grand-père. Et là, il regarde la liasse de 500 euros et il se dit « J'irai pas. J'irai pas au village de mon grand-père. Mon grand-père est mort depuis 1 an. Je ne connais personne là-bas. Il n'y a pas de maison pour moi là-bas. J'irai pas. » Et là, il sent comme une force qui monte de sa poitrine et qui lui dit « Pars, mon Kwame. Pars le plus loin possible. Pars. » Alors quand il arrive à la gare routière, près du village de son grand-père, il descend du bus et il achète un autre ticket pour le Ghana. C'est pas loin, on est tout près de la frontière. Et il se dit, ben là-bas on verra bien. Et c'est comme ça que ça commence.
14h-15h,
on de la traconte sur Europe 1.
Europe 1. Raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Kwame. Parti en 2012 d'Afrique de l'Ouest à l'âge de 14 ans, il a traversé 8 pays et il est aujourd'hui en France. Il raconte son épopée dans un livre paru chez Ixo, Revenu des ténèbres. Il sera là tout à l'heure. Je vous ai expliqué pour quelles raisons il quitte son pays. Son père et sa mère ont été abattus sous ses yeux et sa sœur violée. Il s'est enfui avant d'être liquidé à son tour. Une religieuse lui donne 500 euros et il achète un ticket de bus pour le Ghana. Et là, pour passer la frontière, ça n'est pas bien compliqué, on ne lui demande rien. Ni passeport, ni carte d'identité. Ça tombe bien, il n'a ni l'un ni l'autre. Le lendemain, Kwame est donc à Accra, la capitale du Ghana. Il débarque du bus dans une immense gare internationale, dans laquelle il y a des tas de gens qui dorment partout. Ben, il fait comme eux. Il pose son sac, sa tête sur son sac, et il s'endort. Et ça dure comme ça 3 jours. De temps en temps, il se réveille, il va acheter un peu de nourriture, et puis il retourne dormir. Avec une question qui commence à le tarauder. Quand l'argent sera fini, comment est-ce que je vais faire ? Je vous rappelle qu'il a 14 ans. Et là, il entend 2 Ghanéens à côté qui discutent. Des grands, de 20-25 ans.
Le peu d'argent que tu as, tu peux me croire, tu vas le bouffer ici. Et après, tu vas faire quoi ? Ouais, t'as raison. Il n'y a rien à faire ici. Faut pas rester là. On va en Libye. En Libye, on va être comme des rois, tu vas voir. Là-bas, tout est gratuit. L'électricité, l'eau, la nourriture. Et en plus, il y a du boulot. Là-bas, on va être tranquille. On va être comme des rois, je te dis.
Kwame ne sait pas où est la Libye. Le pays où tout est gratuit. Mais ça lui va comme programme.
C'est vrai que la Libye, c'est comme vous dites. Gratuit et tout. Vrai de vrai, mon gars. Mais c'est loin. Je peux partir avec vous.
Les deux hommes le jaugent du regard.
T'es fou, quoi? T'es qu'un enfant? Et qu'est-ce que tu vas faire en Libye tout seul? Je suis pas un enfant. J'ai 17 ans. Je suis grand. 17 ans. Tu les fais pas du tout, hein?
Mais bon, Kwame a de l'argent pour se payer le ticket de bus, c'est assez convaincant. Alors il l'embarque. D'autant qu'il a un atout qu'ils n'ont pas. Il parle français. Et pour passer la frontière entre le Burkina Faso et le Niger, ça peut être utile. Et donc, 3 jours plus tard, les voilà dans le bus, en passant par le Burkina Faso et le Niger. Et comme prévu, grâce à Kwame, ils franchissent la frontière du Burkina, puis celle du Niger, sans aucun problème. Et après, ça se complique. On ne rentre pas en Libye comme au Niger. Il faut payer des passeurs. Et les deux Ghanéens disent qu'ils connaissent des gens. Et effectivement, les voilà à Agadez, au Niger, prêts à partir pour la Libye, avec 18 autres migrants. Ça leur a coûté 200 euros par tête, la moitié du pécule de Kwame. Et le passeur est une passeuse, c'est une femme, qui les prévient tout de suite.
Je vais être franche avec vous. Vous allez traverser le désert. Je peux pas vous garantir que vous arriverez vivant de l'autre côté. Disons que vous avez une chance sur deux. Le voyage peut durer une semaine comme un mois. Vous êtes toujours sûr de vouloir partir?
Kwame dit oui, en se disant « c'est trop tard pour reculer. Il n'y a plus qu'une solution maintenant, c'est avancer. » Ils partent en pick-up, 21, plus le chauffeur, dans un pick-up, collés les uns aux autres, avec un bidon d'eau par personne. Et encore Kwame a de la chance, comme il est petit, on l'a mis au milieu, alors que les autres font le voyage en équilibre sur les rebords. Le chauffeur a installé des perches pour qu'ils puissent s'agripper. Mais il les a prévenus tout de suite.
Celui qui tombe, tant pis pour lui, hein. Je m'arrête pas. Vous risquez votre vie. Moi aussi, je risque la mienne. Et plus on va vite, moins on a de chances de mourir. C'est compris?
Le voyage en pick-up dure une semaine. Et les voilà à la frontière libyenne, épuisés, ravagés par une semaine de pistes. Et là, au milieu du désert, surgissent 3 voitures. Elles arrivent de nulle part et elles encerclent le pick-up. C'est la police libyenne. Et Kwame et ses 2 camarades de voyage se retrouvent enfermés dans un camp à 20 par cellule. Si nombreux qu'ils ne peuvent pas bouger. Ça dure 2 semaines. Et après, on les entasse tous dans la benne d'un camion, direction le Niger. On les renvoie de l'autre côté de la frontière. Normalement, si la Libye appliquait les règles, elle devrait rapatrier ses migrants dans leur pays. Elle reçoit de l'argent pour ça des Nations Unies, mais non. Elle les renvoie au Niger. Et pour Kwame, cette marche arrière vire au tragicomique. Le camion roule dans le sable pendant plusieurs heures, et puis s'arrête d'un coup. Et là, un policier libyen descend.
Si vous avez 100 euros, je vous ramène à Tripoli, en Libye. Je peux en prendre 15. Qui est partant ?
100 euros. 100 euros, c'est tout ce qu'il reste à Kwame, des 500 euros que lui a donné Sœur Claudine. Les 2 Ghanéens lui disent... Fais pas ça, Kwame. Ils vont te prendre ton argent et te ramener en prison. Fais pas ça, Kwame. Eh ben, il y va. Il aligne ses derniers billets et il saute dans le camion. Et le policier véreux, finalement, honore sa promesse. Kwame est à Tripoli, la capitale de la Libye. La capitale du paradis, comme on lui disait. À partir de maintenant, il n'a plus que son pantalon, ses sandales, un manteau et une chemise.
14h-15h, on de l'être raconte sur Europe 1. Europe 1,
on de l'être raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un jeune migrant parvenu en France après avoir traversé l'Afrique. Il s'appelle Kwame et il raconte son histoire dans un livre qui est paru chez Ixo, Revenu des ténèbres. Il sera là avec moi tout à l'heure. Parti à 14 ans d'Afrique de l'Ouest, où son père et sa mère ont été assassinés pour des raisons politiques, Kwame, après avoir traversé le Burkina Faso et le Niger, parvient à entrer en Libye, un pays dont on lui a dit qu'il était un paradis où tout était gratuit. Et bien entendu, il découvre que c'est faux. Oh, il comprend bien pourquoi on lui a dit ça, de la Libye. Les Libyens embauchent des migrants pour construire leur maison et ils les laissent habiter sur le chantier. Et ils leur donnent chaque semaine un sac de riz, un sac de farine et quelques tomates. Voilà d'où vient cette légende. Sauf qu'en échange, faut travailler très dur, tous les jours, pour un tout petit salaire. Et donc c'est ce que fait Kwame. Il travaille sur les chantiers et pendant un an, toutes les semaines, il met un petit billet de côté. Et au bout d'un an, ça fait presque 1000 euros, bien planqué. Au passage, il s'est fait deux amis, deux Ghanéens, Daniel et Prince. Et puis un matin de 2014, Kwame est réveillé par des coups de feu. Ça tire dans toute la ville. C'est la guerre civile en Libye qui vient de repartir de plus belle. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Daniel et Prince veulent rentrer au pays, au Ghana.
Tu viens avec nous, Kwame ?
Et là, sans bien comprendre pourquoi, Kwame répond.
Non. Je continue. Je vais de l'avant.
De l'avant. Maintenant, il veut donc aller en Algérie. Et passer en Algérie, c'est moins compliqué qu'entrer en Libye. Il n'y a qu'à contourner la nuit le poste frontière qui se trouve en plein désert. Ça passe sans problème. Et Kwame se retrouve dans un petit village algérien où on lui explique que le mieux, c'est d'aller vers l'ouest, vers Magna. Il y aurait du travail là-bas, dans la culture des légumes. Il arrive à Magna en pleine nuit. Et là, un type élégant l'aborde, c'est un Africain, la cinquantaine.
T'es Ghanéen, toi ?
Oui, monsieur.
Bien. Viens, on va chez moi, on va discuter.
Kwame le suit. Il est persuadé qu'il va être embauché dans une exploitation. Eh ben, pas du tout. Il se retrouve dans une forêt, où s'entassent dans une clairière éclairée par des flambeaux des centaines d'Africains comme lui. Le gars lui montre une grande tente.
Ce soir, tu dors là. Je viendrai demain pour te parler.
Le lendemain, le jour se lève, Kwame découvre un peu mieux l'endroit. C'est une clairière entourée de collines sur lesquelles sont postées des gardes en armes. Et comme promis, l'homme revient et il fait signe à Kwame et à sept autres migrants de le suivre.
Bon, vous êtes venus ici pour passer au Maroc.
Et là, Kwame l'interrompt.
Allô ? Moi, je suis venu ici pour travailler. Il n'y a pas de travail ici. Qu'est-ce que tu crois ? Tu vas nous donner de l'argent et puis on va t'amener au Maroc, comme les autres. Là-bas, tu verras. C'est la liberté, il y a du boulot pour tout le monde.
Est-ce que ce type dit la vérité ? Kwame n'en sait fichtre rien. Mais ici ou ailleurs, pour lui, c'est pareil.
Maintenant, vous me donnez l'argent. C'est 90 euros. Si vous les avez, vous les posez sur la table.
Les autres migrants payent, et Kwame aussi. Mais dans le groupe, deux gars disent qu'ils n'ont pas d'argent. Le type fait signe à l'un de ses acolytes, qui se lève, s'approche des deux gars, les jette par terre et se met à les rouer de coups de bâton, jusqu'à ce qu'ils aient le visage en sang.
Vous avez compris ? Vous allez appeler votre famille. Vous leur dites qu'on ne vous laissera pas partir tant que vous n'aurez pas payé l'argent.
Et Kwame comprend qu'il est prisonnier de trafiquants d'êtres humains dans une zone de non-droit absolu. Le soir, souvent, le chef vient chercher une femme pour la nuit, même si elle est mariée. L'attente dure comme ça deux semaines. Et puis un matin, c'est le départ.
Aujourd'hui, on vous fait passer au Maroc. Vous préparez vos sacs. On vous emmène.
Le petit groupe marche dans la forêt pendant quoi ? Une demi-heure ?
C'est bon. Vous êtes au Maroc ?
Et dans ce village marocain, que disent les gens ?
Ah non, ici, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas du tout de travail.
Mais rassurez-vous, au Maroc aussi, il y a des passeurs pour faire rêver Kwame.
Ce qu'il faut, il faut que tu ailles en Espagne. Là-bas, tu verras, c'est le paradis. Il y a les droits de l'homme, il y a du boulot. Tous les Noirs sont bien traités.
Le paradis. Le paradis, ça devait être la Libye. Et puis ça devait être l'Algérie. Et puis le Maroc. Et maintenant, c'est l'Espagne. Après tout, pourquoi pas? Et donc, c'est reparti.
Si je veux aller en Espagne, c'est combien? 1200. 1200 euros. Ah, bon ben tant pis alors. Pourquoi t'as combien ? J'ai 600.
L'homme réfléchit quelques secondes.
Bon, c'est ok. Tu me les donnes, je t'emmène en Espagne.
Sauf que pour aller en Espagne, faut traverser la mer.
Raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un jeune migrant qui a traversé l'Afrique pour arriver chez nous, en France. Il s'appelle Kwame, il sera là dans un instant. Il raconte son histoire dans un livre paru chez Ixo, Revenu des ténèbres. Kwame a 14 ans quand en 2012, il quitte son pays d'Afrique de l'Ouest où ses parents ont été assassinés pour des raisons politiques. Une religieuse, sœur Claudine, lui donne 500 euros. Il traverse le Burkina Faso, le Niger, la Libye, l'Algérie et le Maroc. Et à chaque fois, il doit payer des passeurs. Et au Maroc, ça fait 2 ans qu'il est parti de chez lui. Il a 16 ans. Et un passeur lui propose de le faire passer en Espagne. Et donc, un soir d'octobre 2014, Kwame se retrouve sur une plage, devant un bateau de 15 places, un Zodiac. Ils sont 54 à s'entasser dedans, hommes, femmes et enfants. Le passeur leur donne une boussole, il leur montre comment marche le bateau, et puis il leur dit
« C'est par là. Vous n'avez qu'à suivre la boussole et normalement, vous arrivez dans 2 heures. »
Au début, ils chantent. Ils sont contents, ils arrivent au bout du chemin. Dans 2 heures, ils seront en Europe. Mais au bout de 5 heures, ils ne voient toujours pas la côte. Et la mer enfle, et le vent se lève.
Il y a de l'eau qui rentre dans le bateau !
La coque est percée, et le Zodiac s'enfonce lentement dans l'eau. À ce moment-là, Kwame se sent étrangement calme. Il se dit qu'il va rejoindre ses parents. C'est tout. Mais les autres hurlent de peur, se mettent à prier. Et maintenant, on a de l'eau jusqu'au torse. Et le bateau continue de s'enfoncer. Et une femme tombe et se noie au milieu d'eux. Et ensuite, c'est un enfant. Et puis soudain, un miracle. Au-dessus d'eux, un hélicoptère. Et très vite, un bateau de la Croix-Rouge qui arrive. Ils sont sauvés. Et quand ils arrivent sur la côte espagnole, la première phrase qu'entend Kwame, c'est
« Bienvenida en Europa !»
Bienvenue en Europe. En Espagne, Kwame qui est mineur, il a 16 ans, est prise en charge par la Croix-Rouge. Et une éducatrice, Cécilia, parvient à lui faire délivrer un passeport par l'ambassade de son pays d'origine. Lui qui était parti de chez lui, souvenez-vous, sans rien prendre, en sautant par la fenêtre pour sauver sa peau. Dans son livre, Kwame écrit « J'ai un passeport. C'est comme si le monde dehors m'était de nouveau permis. Dans tous les pays que j'ai traversés, je suis entré clandestinement. » On m'a traité moins bien qu'un mouton parce que je n'avais pas de papier. Et soudain, je suis quelqu'un. Je vais pouvoir marcher dans la rue sans raser les murs. Il faut un peu de temps pour fabriquer ce passeport. Un jour, Kwame va le chercher à l'ambassade. Il le serre très fort dans sa poche. Et puis il se dit, je vais pas rester en Espagne. Je parle français. Je vais aller en France. Et donc, sans repasser par le centre d'accueil pour mineurs, il achète un ticket de bus pour Toulouse. Et c'est le terminus du voyage qui aura duré 2 ans. À Toulouse, comme il est mineur, il est pris en charge par le conseil général, d'abord dans un hôtel, ensuite dans un foyer. Et à la rentrée suivante, il commence une formation de tourneur-fraiseur. Et depuis, eh bien, il est tourneur-fraiseur, en CDI, avec un titre de séjour qui court jusqu'au 18 septembre 2018.
14h, 15h,
on de la traconte sur Europe 1.
Je vous ai raconté aujourd'hui, en m'appuyant sur le récit qu'il vient de publier aux éditions IXO, Revenu des ténèbres, l'histoire de Kwame qui quitte son pays d'Afrique de l'Ouest en 2012 pour fuir la répression politique. Ses parents ont été assassinés sous ses yeux et il passe donc par le Ghana, le Burkina Faso, le Niger, la Libye, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne, avant d'arriver à l'âge de 16 ans à Toulouse où il est toujours. Kwame, je voudrais qu'on reparle de l'assassinat de vos parents, parce que dans ce pays qu'on ne peut pas nommer pour protéger votre sœur qui vit toujours là-bas, est-ce qu'ils étaient en totale paix là-bas? Ou est-ce qu'ils sentaient une menace venir, vos parents?
Non, je pense que non. En fait, c'est ma mère qui ne veulent pas l'engagement de mon père.
L'engagement politique.
Oui. C'est ma mère qui n'a jamais voulu.
Oui.
Mais on ne voyait pas le danger. On ne voyait pas le danger venir. Et mes parents n'ont jamais reçu une lettre de menace. Donc, tout allait bien. Le pays, tout allait bien. Moi, je partais à l'école.
Oui.
Ma grande sœur aussi, elle partait à l'école. Mon père, il est revenu pour enseigner. Voilà. Il enseignait dans son lycée, tout allait bien. Il n'a jamais reçu une lettre de menace.
Et vous aviez déjà entendu parler comme ça d'exécution d'opposants politiques?
Oui, vous savez, oui. C'est la raison pour laquelle ma mère se plaignait à chaque fois.
Ouais.
Elle ne voulait pas l'engagement.
Arrête la politique.
Voilà. Parce que elle voyait le danger. Vous savez, moi, je ne voyais pas ce danger. Ma grande sœur non plus. Moi, j'encourageais tout le temps mon père. Lorsque je le vois devant les gens, quand il prend la parole, c'est une fierté, vous voyez, c'est mon père qui parle, et ça me plaît beaucoup. Et ma mère, elle ne voulait pas.
Maintenant que vous êtes en France, est-ce que vous avez eu l'occasion de, comme on dit en France, on dit travailler sur ça, c'est-à-dire de raconter tout ça à des professionnels, psychologues, peut-être psychiatres, parce que c'est un traumatisme extrêmement puissant que vous avez vécu à l'âge de 14 ans.
Oui, vous savez, j'ai la chance. Vous savez, moi, j'ai eu la chance d'être entouré par les psychologues, les médecins. Mon foyer est témoin. Lorsque je suis arrivé, ils ont fait beaucoup d'efforts côté santé. Voilà. Et ma grande
y compris santé mentale.
Oui. Ouais. J'avais un psychologue qui me suivait de près chaque semaine. Et ça va. Aujourd'hui, ça va. Vous savez, ma grande soeur qui n'a pas eu cette chance, elle n'arrive même pas du tout à parler de notre histoire.
Du tout?
Du tout.
Vous l'avez au téléphone?
Oui, je l'appelle tout le temps, premier au 31, mais elle ne veut même pas entendre parler du drame.
Vous voudriez qu'elle vienne en France, Aïcha?
Oui, c'est ça, oui, bien sûr, ça c'est mon souhait.
Et
il faut commencer la procédure avec la préfecture, donc ça met du temps.
Oui.
Donc je pense que je vais y arriver.
Et bien, il faut que vous appeliez votre copain Macron. Il doit pas vous aider. Hein. Non, mais c'est vrai.
Oui, mais vous savez, il faut toujours suivre la procédure, donc j'attends.
Vous pensez qu'elle sera là cette année? Elle veut venir, elle?
Oui, elle veut venir, elle veut venir.
Ouais.
Voilà. Donc je pense que je dois la voir d'abord et discuter à deux et pour lui faire comprendre que ce n'est pas les mêmes mondes, ce n'est pas les mêmes choses.
Donc, qu'est-ce que vous allez lui dire sur la France? Qu'est-ce que vous lui dites sur la France à votre sœur? Quand vous lui dites, tu sais, ce n'est pas exactement l'idée que tu t'en fais. Vous lui dites quoi?
Non, vous savez, j'ai eu la chance d'être bien accueilli, je le dis à chaque fois. Moi, j'ai été bien accueilli, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Vous voyez? Donc, une fois arrivé, je travaille aujourd'hui. Bon,
vous avez un appartement?
J'ai mon appartement.
À vous?
À vous, oui.
Oui, oui. Oui.
Non, si je loue l'appartement.
Oui, 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 c'est ça. Voilà. Mais enfin, c'est, vous êtes tout seul dedans, quoi.
Oui, c'est ça. Voilà, j'ai un appartement et j'ai un boulot. Je pense que c'est le plus important dans la vie, c'est d'avoir un boulot.
Vous êtes tourneur-fraiseur sur les chaînes de montage de l'Airbus A320.
Oui. Parce que, vous savez, l'école de production, là où j'ai fait la formation, c'est une école qui n'est pas connue, qui n'est pas assez connue, que le directeur se bat.
Oui.
Mais c'est une école où on reçut à 83%.
Oui.
Une fois que le jeune, tu finis ta formation, l'école te trouve un boulot.
Oui.
Ce qui est énorme.
Oui.
Donc j'ai eu la chance de trouver un boulot le plus rapidement possible.
Mais vous lui dites quoi à votre sœur? Vous lui dites, la France, méfie-toi, c'est pas un mirage. Alors d'autant plus que vous, pendant tout ce parcours, on vous a fait croire que le bonheur c'était toujours plus loin.
Oui.
Donc vous lui dites, je te fais venir en France peut-être, mais c'est pas le bonheur assuré.
Oui. Non, c'est pour lui dire que, ouais, ça, tu sais, même si tu te retournes en France, dis-toi que je me suis battu pour arriver là-bas. Et toi aussi, tu dois te battre, c'est pas facile du tout.
Ouais.
C'est pas du tout facile. Il faut se donner les moyens pour y arriver.
Bon, elle viendra.
Ouais.
Est-ce que vous avez pu faire savoir à sœur Claudine que vous étiez en France?
Vous savez, oui, j'ai essayé. Une fois arrivé ici, j'ai donné l'adresse de l'association qui m'a accueilli.
Là-bas?
Là-bas. Et mes éducateurs ont essayé de les appeler au téléphone pour trouver le contact. Et c'est là que j'ai appris que sœur Claudine est décédée en 2013 par un cancer.
Ouais.
Donc, ça a été encore...
Un trauma de plus, ouais.
Voilà.
Et vous lui devez beaucoup.
Beaucoup.
Grâce parce que c'est les 500 balles.
Oui.
Sans les 500 balles, vous n'allez pas jusqu'en Libye.
Grâce à elle. Vous savez, c'est grâce à elle que je suis en face de vous.
Ouais.
Si ce n'était pas elle, où j'allais avoir cet argent, ce n'était pas possible. Elle m'a soigné. J'ai la cicatrice que j'ai.
Oui,
la blessure qui m'a blessé, j'ai la cicatrice.
Ouais.
Quand je vois toujours la cicatrice, je me rappelle d'elle. Elle m'a soigné. Elle a tout fait pour moi.
Elle vous a sauvé.
Elle m'a sauvé la vie.
Et vous n'êtes pas chrétien?
Non.
Et vous êtes musulman, non mais c'est intéressant. Vous avez été sauvé par une chrétienne, voilà.
Oui, oui, vous savez, oui, même quand j'ai commencé la promo de mon livre, j'ai fait la radio juive, j'ai fait Radio Notre-Dame, qui est catholique.
Oui.
Donc je suis avec tout le monde et j'accepte tout le monde.
On va marquer une nouvelle pause et reprendre cette conversation passionnante avec vous, Kwame.
Europe 1. On de la raconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui en m'appuyant sur le livre qu'il vient de publier chez Ixo, Revenu des ténèbres, l'histoire de Kwame qui quitte donc son pays d'Afrique de l'Ouest en 2012 pour fuir la répression politique. Vos parents, Kwame, ont été assassinés. Vous passez par le Ghana, le Burkina, le Niger, la Libye, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne, avant d'arriver à l'âge de 16 ans à Toulouse où vous êtes désormais installé. Vous avez aujourd'hui 19 ans. Et alors, ce qu'on comprend très très bien dans votre histoire, c'est que ce qui fait avancer les migrants africains, c'est le rêve que dans le pays d'après, c'est le paradis. Et vous savez rien de tous ces pays, vous, au fond?
Non, non, non. Vous savez, lorsque vous êtes en face des passeurs, ils vous font croire que devant est mieux. Donc, lorsque vous arrivez, moi, j'étais en Libye, ils m'ont fait croire que, l'Algérie est mieux. Là, j'arrive en Algérie,
c'est mieux le Maroc.
On me fait croire que le Maroc est mieux. J'arrive au Maroc, on me fait croire que l'Espagne est mieux. Donc, c'est toujours comme ça.
Et c'est comme ça que ça marche, en fait.
Voilà,
c'est
voilà
ça qui vous fait marcher.
Voilà, c'est comme ça marche.
Mais vous le croyez ou vous faites semblant de le croire?
Non, vous êtes obligé de le croire.
Puisqu'au fond, vous êtes sur la route.
Oui, vous êtes obligé de le croire. Lorsque tout ce qu'ils vont vous dire, vous n'avez pas la tête pour réfléchir, de dire, c'est vrai ou bien c'est faux. Mmh. Tout ce qu'on vous dit, automatiquement, vous croyez.
Et alors aujourd'hui, vous essayez, parce qu'avec Internet, c'est pas compliqué ça, vous essayez de faire savoir à ceux qui partent qu'il faut pas qu'ils se fassent embrouiller là-dessus.
J'ai fait tout mon possible. J'ai un ami qui m'a ajouté sur Facebook.
Oui.
Et du coup, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Lui, il a eu son bac. Il est dans mon pays. Et lui, il me fait croire que lui, il a envie de venir ici.
Oui.
Et je lui dis, écoute-moi, viens. Je ne te conseille même pas à essayer. Parce que c'est l'enfer. Et n'essaye même pas une seconde. Ce n'est pas possible.
Et ça sert à quelque chose de lui dire ça ou pas?
Bon, lui, il a dit d'accord, il a compris. Mais moi, je lui ai dit, je vous le dis, mais si on me donne 1 million,
vous recommencez
de faire ce trajet, je ne le fais pas.
Ouais. Il ne faut pas savoir ce que c'est,
c'est pas
avant
possible.
De partir.
C'est pas possible. Et je me demande, qu'est-ce que j'avais en tête lorsque je faisais ce trajet? Même moi, il y a beaucoup qui lisent ce livre, qui me disent que c'est un truc, ça les étonne. Même moi-même, ma vie, mon parcours m'étonne.
Oui.
Comment j'ai fait pour m'en sortir?
Alors, vous êtes en France maintenant, et vous savez qu'en France, il y a un débat sur l'immigration. Est-ce qu'il faut accepter les migrants? Est-ce qu'il faut les repousser? Est-ce qu'il faut les ramener chez eux? Et donc, quelqu'un a pris position d'une certaine manière en votre faveur à vous, en tout cas. C'est le président Emmanuel Macron, c'était à la tribune des Nations Unies.
J'ai entendu aussi Kwame, et c'est sa voix que je veux ici porter. Jeté sur les routes, il a traversé l'Afrique avant de remettre son sort en Libye, entre les mains de passeurs. Il a traversé la Méditerranée. Il est parvenu à bon port quand tant d'autres périssaient en mer. Le réfugié, le déplacé, ou celui qu'on appelle tristement le migrant, est en réalité devenu le symbole de notre époque. Le symbole d'un monde où aucune barrière ne pourra s'opposer à la marche du désespoir, si nous ne transformons pas les routes de la nécessité en routes de la liberté. Ces migrations sont politiques, climatiques, ethniques. Ce sont à chaque fois ces routes de la nécessité.
Bon, déjà, vous avez eu un rôle politique considérable, Kwame, puisque il utilise votre histoire pour faire passer à la tribune des Nations Unies l'idée qu'il n'y a rien à faire contre cette marche des Africains qui veulent venir en Europe. Vous pensez, vous, qu'il n'y a rien à faire pour empêcher cette migration massive?
Oui, c'est pas possible, vous savez. Je le dis à chaque fois, et je vais le dire aujourd'hui encore. Vous savez, tous les passeurs, côté Libye, tous les passeurs qui font ce trafic humain sont des policiers libyens.
Corrompus.
Ce sont des policiers bien gradés qui font ce trafic humain. Lorsque j'entends le président qui parle d'arrêter ces passeurs, ben, je ne sais pas comment ils vont faire pour les arrêter. C'est que des policiers. Comment ils vont faire?
Ils feront pas.
Voilà. Et je me dis encore, vous savez, c'est pas les mots maintenant que j'ai envie d'entendre. J'ai envie de voir les gestes. J'ai envie que tout le monde soit un peu, chacun a son rôle à jouer dans ce monde. On est juste là pour le passage. Et je demande à tout le monde d'être solidaire avec tous ces migrants. Si on savait ce qu'ils ont vécu avant d'arriver ici, on allait les accueillir avec la main sur le cœur.
Mais est-ce que vous comprenez que des Français disent « c'est trop de monde, c'est trop de gens qui vont changer notre pays, qui vont changer notre culture ». Est-ce que vous le comprenez un peu ou pas?
Vous savez, je pense que dire que c'est trop, moi, c'est pas la solution. Parce que on les laisse au dehors, ils dorment au dehors, ils n'ont pas de papier, on dit ouais que c'est trop. Non, mais la solution c'est pas ça. Il faut les accueillir, il faut les aider, il faut leur donner la chance. Parce que si on s'approche pas d'eux, on peut pas les connaître. Il faut qu'on s'approche d'eux. Avant d'être africain ou européen, nous sommes tous des êtres humains.
Mais par exemple, il y a des démographes qui disent que dans 20 ans, nous serons tous de couleur café au lait. Mmh. Un peu noir, un peu blanc. Nos enfants seront mixtes. Oui. On y va? On fait ça?
Oui. Non, mais vous savez, oui. Si aujourd'hui, nos enfants sont mélangés, qu'est-ce qui change? Le plus important, c'est de vivre en paix. S'il y a des blancs qui sont mélangés aux noirs, pour qu'on vive en paix, c'est la meilleure solution. La solution n'est pas là que les noirs restent, les blancs restent ici pour qu'on fasse la guerre. Il vaut mieux de nous unir pour faire la paix que de nous diviser pour faire la guerre.
Merci Kwame d'être venu jusqu'à nous. Vous allez donc retourner dans votre pays l'été prochain?
Oui.
Pourquoi faire?
Oui, j'ai
pas. Vous avez peur un peu?
Oui, j'ai un peu peur, mais j'ai ma soeur qui me manque beaucoup. Et il y a ma nièce aussi qui me manque énormément. Voilà, je sais que je vais vous quitter, mais laissez-moi 10 secondes pour faire passer mon message. Et dire au peuple français que je leur dis merci au fond de mon cœur. et tous les migrants aussi, ceux qui les accueillent, leur disent merci. Et aujourd'hui, vous savez, moi je travaille, j'ai 20 ans, je vais payer mes impôts en 2019. Je vais pouvoir rendre ce que les Français m'ont donné lorsque je suis arrivé, lorsqu'ils m'ont accueilli. Et je vais payer mes impôts. Ce n'est pas un devoir pour moi. C'est une fierté pour moi. Donc je leur dis merci et d'être solidaire avec les migrants.
Ça fait 35 ans que je fais ce métier, je crois que vous êtes le premier à dire qu'il est content de payer des impôts. Merci Kwame. Je rappelle, mais on comprend tout à fait pourquoi. Je rappelle le titre de votre livre, Revenu des ténèbres, publié aux éditions XO.
Ondelat raconte revient bien sûr demain dès 14h sur Europe 1. Christophe Ondelat nous fera le récit d'une aventure vécue par trois copains. L'histoire d'un pari fou, gravir le Mont Blanc, alors que l'un des trois copains justement a le vertige. À suivre, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet reçoit le cinéaste Bertrand Blier jusqu'à 15h sur Europe 1. Bertrand Blier qui revient avec un nouveau film, son 20e Convoi exceptionnel.